Force Info.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informés. Comme tous les samedis, vous le savez, nous sommes ce soir avec les correspondants de la presse étrangère en France. Au programme, les annonces de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, sur la fin de vie et les soins palliatifs. Plus d'un milliard d'euros d'efforts financiers annoncés. Nous regarderons comment cela se passe dans les autres pays. L'enquête après la mort d'un adolescent de 15 ans à Viry-Châtillon, tabassé par d'autres élèves à la sortie de son collège, ce qui suscite l'émotion dans la classe politique avec le risque aussi d'une certaine récupération. Deux figures de l'extrême droite en meeting aujourd'hui pour les élections européennes, Jordan Bardella et Éric Zemmour, aux dynamiques bien différentes dans cette campagne. Et puis les 30 ans du génocide au Rwanda, la France aurait pu arrêter le génocide, a dit cette semaine Emmanuel Macron. Quelle réaction dans les pays de nos informés. Ce soir, autour de la table, Vibeke Knoop, Racheline, bonsoir à vous.
Bonsoir.
J'ai bien dit votre nom?
Oui.
Correspondante de la presse norvégienne, bienvenue à vous, d'autant plus que c'est votre première ce soir aux informés. Anna Navarro-Pedro est avec nous, bonsoir Anna. Correspondante de la presse portugaise, Enrique Bonnet également, journaliste espagnol pour El Periodico, journaliste catalan, bonsoir à vous Enrique.
Bonsoir.
Et Daniele Zappala, bonsoir Daniele.
Bonsoir.
Journaliste italien correspondant du quotidien italien Avvenire. Et c'est parti pour une heure de débat. Plus d'un milliard d'euros supplémentaires ces 10 prochaines années pour les soins palliatifs. Dans une interview au journal Le Monde, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, dévoile donc les premiers détails de ce plan décennal, l'un des deux volets de la loi sur la fin de vie, avec l'aide à mourir, projet de loi présenté mercredi prochain en Conseil des ministres. Ces mesures représentent une bonne nouvelle pour Claire Fourcade, médecin et présidente de la Société française d'accompagnement de soins palliatifs.
Pour nous, évidemment, c'est une victoire d'abord pour tous les Français qui ont besoin d'être accompagnés ou qui ont des proches qui ont besoin de l'être. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est 500 personnes chaque jour en France qui meurent sans avoir eu accès aux soins palliatifs dont elles auraient eu besoin. Et donc, on voit l'immensité de ce qui reste à faire. Et donc, voilà, c'est une première marche qui est annoncée. On va être très vigilants sur un engagement dans la durée, avec pour nous un souci du côté des ressources humaines. On sait combien le monde de la santé est en difficulté actuellement. Donc voilà, on va se battre pour rendre effectif cet engagement qui nous paraît essentiel pour les Français.
Le docteur Claire Fourcade qui se réjouit aussi de la proposition de créer une filière soins palliatifs dans les études de médecine pour faire face au manque de personnel actuel. Anna Navarro-Pedro, quand vous entendez que l'État investit de l'argent et des moyens pour cette fin de vie, pour ces soins palliatifs, vous vous dites quoi? Il était temps?
C'est intéressant. La France a quand même des soins palliatifs depuis un certain temps déjà. Je pense qu'à l'initiative quand même de la société civile plus que de celle du gouvernement.
Des associations notamment.
Voilà. Et donc c'est extrêmement important. Il semble vouloir y mettre les moyens. Je crois que justement ces associations vont être assez vigilantes. Et notamment ce que vous venez de référer, l'enseignement des soins palliatifs en fac de médecine, c'est extrêmement important. Mais nous remarquons que...
Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on manque énormément justement de médecins à la fois formés pour cela et qui manquent dans les services.
Exactement. Oui, il y a beaucoup de volontaires bénévoles en France, en plus, qui dans ces services. Mais je remarque qu'on peut-être on va revenir dessus, mais on met l'accent sur ce côté très positif, très intéressant que nous souhaitons tous de la loi. Mais c'est une loi aussi sur la fin de vie et qui va introduire des éléments culturels nouveaux en France et qui sont peut-être un peu plus polémiques et sur lesquels en ce moment on glisse un peu facilement.
Et on va y revenir. Daniele Zappala, pourquoi est-ce que l'on a autant attendu en France, selon vous, ces soins palliatifs? C'est un droit reconnu chez nous depuis 25 ans, depuis 1990.
Voilà, c'est en fait tous les paradoxes. Ces fossés énormes entre les mots, les droits, effectivement, depuis 1999, et ensuite la réalité, ces manques criants, ces scandales, en fait, des centaines et centaines de personnes qui meurent tous les jours dans la douleur, alors qu'on sait très bien qu'il y a des traitements, mais c'est vrai que quand ces questions, en fait, qui relèvent de l'intime, finalement, ne font pas, en fait, beaucoup de bruit. Et c'est peut-être un peu aussi les paradoxes et cette association, la société en fait pour les soins palliatifs, n'est en fait s'arrête pas de dire il faut impérativement que en fait tout le monde soit impliqué dans ces débats, car effectivement tout le monde est là prêt à vivre en fait des situations de près ou de loin de ce type.
Vibeke Knoop-Racheline, l'idée c'est ça aussi, hein, c'est de mobiliser les territoires, les collectivités et les associations. On le disait, on comprend que la question, c'est pas seulement l'argent, il faut les moyens humains. Et
il faut des lits aussi. Parce que souvent, en France, on manque de lits. Pas seulement dans ces services-là, mais un peu dans d'autres services.
On l'a vu pendant la crise Covid, notamment.
Absolument. Alors, chez nous, en Norvège, c'est peut-être un peu différent parce qu'on fait une distinction entre les soins palliatifs en fin de vie, vraiment, et les soins palliatifs pour prolonger la vie. Et on a même une sorte de protocole pour les tout derniers jours de vie. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place.
Concrètement, quels moyens?
Vous savez, ça, c'est l'avantage de la Norvège. Les moyens, ça manque pas.
On a un des meilleurs systèmes de santé au monde. C'est ça. Très réputé, le système
norvégien.
C'est ça.
Et puis, surtout, on a beaucoup d'argent. Donc, c'est pas ça qui manque. Mais c'est un système qu'on a mis en place. Et je crois que, franchement, il est assez bon. C'est pas pour me vanter, mais je crois qu'il est assez bon.
Non, c'est intéressant, effectivement.
Mais par contre,
ce que je voudrais dire,
c'est que j'ai regardé. Il y a 27 millions de personnes dans le monde qui auraient besoin de soins palliatifs et il n'y a que 14% qui y ont droit et à qui on donne des soins palliatifs. Donc il n'y a pas qu'en France qu'il y a un manque criant, c'est dans le monde entier.
500 personnes par jour qui meurent sans ces soins-là, voilà. Disait à l'instant le docteur Fourcade. Avec ce projet, on regarde la mort en face, disait Emmanuel Macron en février, au moment de présenter la loi sur la fin de vie. Henrik Bonnet, il y a aussi ce tabou de la mort peut-être dans nos sociétés?
Il y a ce tabou de la mort. Après, c'est en train de changer. Hein. Par exemple, le cas de l'Espagne, c'est intéressant, un pays historiquement très catholique qui a tourné le dos une bonne partie de la société espagnole au catholicisme de manière assez radicale. Et par exemple, l'Espagne, c'est un pays qui a approuvé l'euthanasie en 2021. Mm-hmm. La loi elle est déjà entrée en vigueur la même année. Mais ce qui est intéressant, c'est que par l'instant, très peu de monde en Espagne utilise l'euthanasie. Juste seulement, par exemple, en 2022, 300 personnes. Et en revanche, il y a beaucoup plus de monde en Espagne qui a plus besoin de soins palliatifs. Mais il y a, en Espagne, un peu comme ici en France, et probablement plus en Espagne, il y a un manque de ressources. Parce que finalement, les soins palliatifs, probablement, ça fait couler moins d'encre que l'euthanasie. Mais c'est ce qui finalement, il est nécessaire pour beaucoup plus de monde. Et ça a besoin de beaucoup plus d'argent. Donc ça me semble intéressant, oui, que le gouvernement fait cette annonce. Mais après, je pense que dans le cas de l'annonce du gouvernement français, c'est une annonce très politique, très liée à la présentation du projet de loi sur la fin de vie le mercredi prochain. Et une annonce qui est faite en sachant qu'il y a une partie de l'électorat catholique français, qui est probablement un électorat qui peut osciller soit entre le macronisme ou la droite républicaine, un électorat qui est très contraire à ce projet de loi sur la fin de vie, qui finalement c'est un projet de loi aussi sur une sorte d'euthanasie un peu limitée.
Oui, ce qui avait été dit déjà au moment de la présentation de cette loi par Emmanuel Macron, qu'il fallait effectivement engager la discussion avec les autorités religieuses. On va poursuivre, nous, la discussion dans un instant, le temps de dérouler le fil info à 20h, passé de 11 minutes, c'est avec Stéphane Milhomme.
Si vous n'allez pas chez le médecin alors que vous aviez rendez-vous, il vous en coûtera 5 euros. C'est en tout cas l'un des souhaits du Premier ministre à travers ce que l'on appelle la taxe lapin, une annonce de Gabriel Attal qui donne une longue interview à la presse régionale à paraître demain. Il veut aussi une expérimentation dans 13 départements pour que les patients qui souhaitent aller chez un spécialiste ne passent pas par la case généraliste. Au lendemain de la mort du collégien de Viry-Châtillon, la garde à vue des 5 suspects est prolongée, annonce ce soir du parquet d'Evry. Ces jeunes sont âgés de 15 à 20 ans. Une enquête est ouverte pour assassinat. Le bilan est toujours de 6 morts au moins et une dizaine de blessés en Ukraine. Les suites de l'attaque russe de drones sur la ville de Kharkiv. Les engins volants de fabrication iranienne visaient des immeubles d'habitation mais aussi une station-service. Le PSG accueille Clermont, bon dernier du classement. C'est à partir de 21h à la suite de la 28e journée de Ligue 1 de football. Avant cela, Lens concède le match nul à domicile face au Havre. Un partout. Et puis aujourd'hui encore, c'était presque l'été. Il faisait par exemple jusqu'à 34 degrés à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, 25 degrés à Nancy et 23 à Bordeaux comme Limoges ou encore Paris. Météo France prévient, c'est le retour demain des températures de saison.
France Info.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Plus d'1 milliard d'euros supplémentaires, on le disait, ces 10 prochaines années pour les soins palliatifs. C'est l'un des 2 volets de la future loi sur la fin de vie. Ana Navarro-Pedro, au Portugal, la prise en charge de ces soins palliatifs, elle est largement jugée insuffisante, un peu comme, comme en France, alors qu'une loi pourtant sur l'euthanasie et le suicide assisté a été adoptée l'an dernier.
Elle a été adoptée l'an dernier. Elle n'a pas encore, il n'y a pas encore le décret d'application de cette loi. Parce que elle continue à être polémique. Plus de 20 ans de débat, deux fois recalé au tribunal constitutionnel, 2 vétos présidentiels,
passé. Polémique politique ou culturelle?
Les deux. Mais surtout culturelle. L'association des médecins catholiques, par exemple, s'insurge et vraiment, est très réticente. Voilà. Donc, c'est problématique. Et pourtant, il y a une partie, quand les soins palliatifs n'y peuvent plus rien, il y a une partie des malades qui souhaitent pouvoir partir dignement et abréger les souffrances. Mais il faut être extrêmement prudent dans ces cas-là. Et ce qu'on a vu, et ce que le Portugal a pu voir au long de plus de 20 années de débat, comme je l'ai dit, c'est ce qui se passait dans les autres pays. Le premier, c'est les Pays-Bas, 2002. Le Canada, 2016. Entre d'autres pays comme la Belgique, Luxembourg, etc., l'ont adopté entre-temps. Et puis on voit les dérives aux Pays-Bas ou au Canada. Ce sont des dérives qu'on peut trouver graves, mais surtout qu'on doit dire sont des évolutions.
Quelles dérives, du coup?
Alors, par exemple, au Canada, ça commence évidemment pour la fin de vie en cas de maladie incurable et souffrance énorme. Et on en est maintenant à adopter l'euthanasie pour les malades psychiatriques, les malades mentaux. La loi a été adoptée il y a 2 ans et devait entrer en vigueur en mars. En fait, elle a été ajournée de 2 ans parce que les médecins et la classe médicale...
Ce n'est pas le cas pour la future loi française, par exemple.
N'étaient pas préparés. Mais dans 2 ans, ils pensent avoir formé suffisamment les étudiants pour être prêts à tuer des malades mentaux, uniquement parce que ce sont des malades mentaux. Et donc, la Commission des droits humains au Canada avertit que le problème, c'est que le Canada a commencé d'abord par les maladies incurables, ensuite les maladies chroniques, ensuite les handicapés, et que maintenant, les malades mentaux, il dit, l'euthanasie n'est pas là pour pallier à l'incapacité du gouvernement, de l'exécutif ou de l'État à fournir les moyens pour ces cas de
c'est un exemple
sociaux.
Finalement de dérive de ce type de loi.
Et ça existe aussi des dérives aux Pays-Bas de ce genre et nous les avons observées très attentivement.
Comment ça se passe en Italie, Daniele Zappalà? Je crois que vous avez une loi depuis 2017 sur la fin de vie. Comment ça se passe pour les soins palliatifs?
En Italie, il n'y a pas véritablement de loi. C'est vrai que c'est un débat, en fait, qui dure depuis des années et on parle des soins palliatifs au niveau polémique également pour les disparités territoriales. On voit bien que 50% des unités sont finalement concentrées dans les nord riches alors que seulement 20% dans les régions du sud. Donc on voit bien que c'est également un miroir des en fait difficultés économiques des territoires et a fortiori donc c'est quelque chose d'extrêmement injuste. Et voilà, on les perçoit aussi à cet égard en termes de cas de conscience pour beaucoup des médecins.
Des obstacles moraux, religieux aussi?
Des obstacles, bien sûr, également religieux. Il y a beaucoup des médecins qui disent finalement notre mission est celle en fait de soigner, pas en fait de ôter la vie. Et donc c'est vrai que il y a eu un arrêt de la du Conseil constitutionnel italien qui a permis un cas de en fait suicide assisté, mais encore les débats est loin d'être clos.
Vibeke Knupprachlin, on parlait de la Norvège tout à l'heure. Chez vous, il n'y a pas d'euthanasie ni de suicide assisté, mais vous faites partie des pays que l'on considère comme avoir finalement pleinement intégré, on le disait, ces soins palliatifs dans le système de santé.
Exactement.
Comment ça se concrétise réellement?
Eh ben, ça se concrétise par une prise en charge assez tôt et comme je disais, soit parce que il s'agit d'essayer de prolonger la vie du patient, soit parce que il s'agit de l'accompagner et on a donc même un protocole spécifique pour les derniers jours de vie. Et alors ceux qui trouvent que malgré tout ce système n'est pas suffisant, eh bien ils vont en Suisse. Parce qu'en Suisse, on admet des étrangers. Il y a plusieurs associations qui se chargent d'aider ceux qui veulent mourir.
Quel regard vous avez sur les pays qui sont plus à la traîne? La France, le Portugal, on l'a dit par exemple.
Bah, je pense
vous
que...
dites qu'ils mettent du temps finalement à s'occuper de ce problème.
Non, je pense que c'est bien de réfléchir vraiment longtemps parce que par exemple chez nous, effectivement, il n'y a pas de loi, mais il y a quelques rares médecins qui ont aidé des patients à mourir et qui se trouvent devant les tribunaux parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? En dernière instance, c'est le médecin qui décide. Donc, c'est le médecin qui soit met une piqûre ou donne un médicament au patient pour qu'il le fasse lui-même. Donc, finalement, c'est une énorme responsabilité.
Et on rappelle que ce projet de loi sur la fin de vie en France sera donc présenté en Conseil des ministres. Ce sera mercredi prochain. On en vient maintenant à l'enquête après la mort hier d'un adolescent de 15 ans, roué de coups la veille tout près de son collège de Viry-Châtillon en région parisienne. 5 jeunes de 15 à 20 ans ont été interpellés et placés en garde à vue prolongée ce soir. Événement qui intervient après une autre agression à Montpellier. Cette fois, l'élève victime a eu cette fois plus de chance. Elle a pu sortir du coma. Ces violences posent beaucoup de questions, notamment celles de l'éducation et de l'autorité. C'est ce que dit sur France Info le député Renaissance de l'Essonne, Robin Reda.
Ce sont aussi des mesures d'autorité. L'autorité, elle commence à l'intérieur des établissements scolaires avec les règles élémentaires du respect mutuel et aussi les premières punitions. Parce qu'on sait que c'est là aussi que l'on apprend à respecter l'autorité. Et vous savez que le gouvernement, en particulier le Premier ministre Gabriel Attal, était très mobilisé lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Il est encore aujourd'hui sur ce point. Mais au-delà de ça, je crois que nous devons aussi prendre conscience qu'il y a des frontières qui se sont abolies entre les établissements scolaires et l'extérieur. Les réseaux sociaux, la facilité de communication, la facilité de faire des boucles qui souvent échappent au regard des enseignants, des adultes des établissements scolaires, mais aussi des parents, c'est à chaque fois des bombes à retardement.
Le député de la majorité, Robin Reda, sur France Info. Henrik Bonnet, il est où le problème finalement ? Alors, dans l'autorité à l'école, dans l'éducation, dans les réseaux sociaux, tout cela à la fois ?
Oui, probablement, le problème, il est un peu partout. Et c'est aussi intéressant de constater que ce n'est pas exclusif de la France. Même si c'est vrai qu'en France, ce type de faits divers, ils se médiatisent beaucoup. Hein. Les correspondants, par exemple, correspondant en espagnol à Paris, on écrit beaucoup sur les faits divers. Et c'est intéressant, il y a parfois des faits divers très similaire, qui se passe en Espagne.
Des faits divers dont on fait aujourd'hui des faits de société, finalement.
Exactement.
On ne traite plus que comme des faits divers.
Exactement. Mais le fait qu'il se passe en France, ça fait que ça intéresse beaucoup. Et peut-être parfois qu'on essaie de tirer peut-être trop de leçons, alors que c'est tragique, mais c'est un fait divers. Mais je pense que oui, ici, donc, ce qui s'est passé à Montpellier et à Viry-sur-Châtillon, probablement, les raisons, finalement, elles étaient assez différentes. Dans le cas de Viry-Châtillon, par l'instant, c'est moins. Ce qui s'est passé, ceux qui enquêtent, ils privilégient la piste d'une querelle amoureuse. Alors que
sur les réseaux sociaux, apparemment. Voilà. Oui.
Et aussi, après à Montpellier, oui, c'était plus les réseaux sociaux. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai sujet sur les réseaux sociaux. Les jeunes, mais aussi les adultes, on utilise très mal les réseaux sociaux. Et c'est normal, oui, que par rapport à ça, il faut non seulement une réflexion, mais il faudrait peut-être des outils d'éducation. Il faudrait que dans la société, on apprenne à utiliser beaucoup mieux les réseaux sociaux. Et après, ce sont des faits divers. Par exemple, moi, je suis plus sceptique par rapport au fait d'utiliser des concepts comme l'ultra-violence. Parce que, par exemple, on parle d'ultra-violence en France.
On parle d'hyper-violence ou d'ultra-violence.
Et en Espagne, personne ne parle d'ultra-violence. Alors que, par exemple, à la mi-février, il y a eu un fait divers très similaire à celui qui s'est passé à Viry-sur-Châtillon, à Malaga. Un groupe de 4-5 jeunes qui ont tabassé un autre jeune à la sortie de son lycée avec un poing américain, très violent. Et la seule différence là-bas, il a subi des blessures très similaires à celles de Shamsuddin, mais heureusement là-bas, il n'est pas décédé. Mais c'était les mêmes faits divers. Et en Espagne, le concept d'ultra-violence, il n'est pas utilisé, alors qu'en France, il est de plus en plus récurrent.
Et on va poursuivre la réflexion dans un instant, 20h et 22 minutes, c'est le fil info avec vous, Stéphane Milhomme.
Après les annonces ce matin sur la fin de vie, Gabriel Attal donne maintenant une nouvelle série de mesures à mettre en route dans le domaine de la santé. Il souhaite par exemple que les pharmaciens puissent prescrire directement certains antibiotiques, que les patients puissent consulter directement des spécialistes sans passer par les généralistes. Le Premier ministre le déclare dans une interview publiée demain dans plusieurs quotidiens régionaux. Garde à vue prolongée pour les 5 suspects interpellés à Viry-Châtillon. 24 heures de plus. Ces jeunes de 15 à 20 ans doivent préciser leur rôle dans l'agression mortelle du collégien des Sablons, passé à tabac et laissé pour mort dans la rue jeudi soir. Alexis Grus avait révolutionné le cirque moderne. L'hommage de la ministre de la Culture Rachida Dati. Alexis Grus disparaît à 79 ans après avoir donné ses lettres de noblesse au cirque équestre. Le Hamas affirme qu'il ne renoncera pas à ses exigences pour une trêve à Gaza avec Israël. Le mouvement terroriste souhaite un cessez-le-feu complet dans le territoire palestinien, un accord sérieux d'échange d'otages avec Israël. Le mouvement terroriste confirme aussi l'envoi d'une délégation aux discussions prévues ce week-end au Caire. Et puis le Paris-Roubaix, la 4e édition pour les dames, a été remportée cet après-midi par la Belge Lotte Kopecky. 121e course demain pour les hommes, avec 260 km à dévorer et notamment une cinquantaine sur les pavés.
France Info.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Et la mort de cet adolescent de 15 ans, donc hier, des suites de ses blessures à Viry-Châtillon, près de son collège, après avoir été tabassé par d'autres jeunes. Anna Navarro-Pedro, c'était intéressant ce que disait Henrique Bonnet sur ce terme d'ultra-violence, d'hyper-violence. Est-ce qu'on l'utilise au Portugal, par exemple?
Non, on ne l'utilise pas chez nous. Ces deux affaires en France provoquent beaucoup d'émotions chez nous et sont traitées par tous les médias et avec beaucoup d'interrogations. Et en parallèle avec chez nous, une violence grandissante dans les écoles, aussi deux tiers à peu près des élèves, collèges et lycées, sont victimes de violences, grande partie cyber. Violence, mais pas que, aussi, d'après la police, 60% des cas sont des cas criminels en plus. Donc, cette violence qui grandit et dont on se pose la question, on voit en France qu'il y a eu des appels à punir les auteurs et avec raison, mais il faut se demander de tout le contexte autour. Parce que il y a tout un contexte de films, de dessins animés, de culturel qui est extrêmement violent.
C'est pas nouveau, ça.
C'est pas nouveau, mais voilà, on a maintenant des générations, peut-être deux, trois générations qui ont grandi qu'avec ça. Et donc, là aussi, il y a peut-être un aspect à étudier. Moi, il y a déjà peut-être 15 ans, il y avait un jeu dans les écoles primaires françaises, pour le coup. C'était un jeu où un enfant était autour d'un cercle et il était battu par les autres. Et il acceptait que ça se passe comme cela. Et on n'aimait pas trop qu'on en parle dans la presse étrangère, par exemple.
Pourquoi?
En France. J'avais eu des remarques de la part de certains diplomates qui me disaient que c'était pas bien parce que c'était donné une image négative de l'école française. Mais le problème n'était pas là. Déjà à l'époque, on l'associait avec cette violence que les enfants pouvaient, auxquelles ils pouvaient être habitués par le biais de leurs loisirs. Donc le cinéma, les séries de télé, des dessins animés, etc. Donc il y a tout un contenu. Et puis il y a l'éducation des parents qui évidemment est mise en cause et qui évidemment doit être traitée, mais très sérieusement.
Daniele Zappala, on en parle de ce qui s'est passé en France, en Italie?
Oui, on en parle, d'autant plus que cela nous fait penser à un cas qui remonte à l'année dernière, un cas un peu d'ultra-violence, mais des virtualisations de la violence, deux jeunes qui ont tabassé près de Naples un sans-abri et qui ont donc qui l'ont tué et qui ont même filmé la scène et se sont vantés avec leur cercle de copains, en fait, voilà, d'avoir commis ces faits, comme si finalement ils étaient un peu dans une zone intermédiaire entre la réalité et les jeux vidéo, et cela bien évidemment...
Je disais un policier d'ailleurs tout à l'heure, il disait finalement ces jeunes ne se rendent pas compte au moment où ils commettent ces faits, après ils sont horrifiés une fois qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait.
Voilà, c'est en fait qui était le cœur du débat. Finalement, ces jeunes sont-ils véritablement conscients de ce qu'ils font, en fait, leur relation à la violence qui s'est tellement banalisée, et est-elle en fait finalement la porte vers en fait des atrocité presque, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est un débat qui est ouvert et à chaque fois, ce sont des blessures qui, bien évidemment, touchent.
À une époque, on accusait les jeux vidéo dans les années 90 ou 2000. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, finalement, qu'on met en avant.
Ouais, je pense qu'on a tous surpris, en fait, des jeunes dans les métros, etc., avec ces jeunes avec beaucoup d'égiclements de sang. Voilà, c'est quelque chose qui s'est vraiment, en fait, banalisé et on a les sentiments que, aujourd'hui, même la réflexion de la part, peut-être, des psychologues du monde intellectuel n'a pas été poussée pousser véritablement jusqu'au bout pour en fait peut-être aussi orienter les fabricants, ces marchés qui ont laissé et en fait un marché qui explose en fait partout au niveau mondial.
On dira encore un mot de cette violence chez les jeunes dans un instant. On vous donnera la parole, Vibeke Knoop-Rachline. On va marquer une pause, la météo et puis l'info dans un instant, la seconde partie des informés qui arrive. Restez avec nous.
Oh Chantal, magnifique ton pool house. Mais où est donc la piscine?
Eh bien, figure-toi que mon pool house Akena est multifonction.
C'est vrai?
Parfaitement. Cuisine en été, local de rangement en hiver, espace de jeu pour les petits-enfants et même salle de sport. Ça t'embauche un coin, non?
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
France Info Météo. Avec Malongo, ses cafés bio, équitables, ses doses en papier naturel, sa machine expresso fabriquée en France. Sur malongo.com, c'est la liberté d'expresso.
Le temps, Sophie Bria.
Nette baisse des températures par l'ouest demain matin. Il fait entre 10 et 14 degrés en général. Les maximales sont en baisse sur l'ouest du pays, stationnaires sur la moitié est, de 19 à 28 degrés. 19 à Bordeaux, 26 à Besançon. Sur le nord-nord-ouest, il fait de 15 à 23 degrés. 15 degrés à Brest et 19 degrés à Paris. Du Nord-Pas-de-Calais vers la Normandie et la Bretagne, les passages nuageux font jeu égal avec de belles éclaircies pour toute la journée. Et les pluies arrivées la veille par l'ouest arrosent durant une bonne partie de la journée. Les régions allant des Ardennes à la région parisienne jusqu'au Pays de la Loire. À l'avant, le ciel est bien chargé, de la Lorraine jusqu'à l'Aquitaine. Et bien que voilé de nuages d'altitude, le ciel est plutôt lumineux, de l'Alsace jusqu'à la Méditerranée et les Pyrénées. Attention au vent de sud-sud-est qui reste sensible sur la moitié sud du pays et qui souffle jusqu'à 100 km/h sur les Pyrénées.
Merci d'écouter France Info, il est 20h30. L'info Thomas Giraudot.
Une taxe lapin, 5 euros pour chaque rendez-vous non honoré chez le médecin. Gabriel Attal annonce ce soir plusieurs mesures pour libérer, espère-t-il, des millions de rendez-vous. Dès le mois de juin, il sera possible dans 13 départements d'aller voir un spécialiste sans passer par un généraliste. Les pharmaciens pourront aussi prescrire et délivrer des antibiotiques en cas d'angine ou de cystite. Il a fait anormalement chaud aujourd'hui. Un pic de chaleur dû à une masse d'air venant du Sahara, plus de 30 degrés dans le sud-ouest, conjugué à des rafales de vent dépassant les 100 km/h, le temps idéal pour les incendies. Plusieurs feux se sont déclarés dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Au moins 150 hectares de végétation sont partis en fumée. Les feux ne sont pas encore maîtrisés. Les 5 personnes, 4 mineurs et un jeune adulte arrêtés hier voient leur garde à vue prolongée. Ils sont suspectés d'être impliqués dans la mort de Shamseddine, ce collégien roué de coups à la sortie de son établissement de Viry-Châtillon dans l'Essonne. C'est une décision rarissime. Une magistrate est elle-même en détention provisoire. Hélène Guérard s'est mise en examen et incarcérée pour ses liens avec un membre du banditisme corse quand elle était juge d'instruction sur l'île de Beauté dans les années 2010. La campagne pour les élections européennes, à 2 mois du scrutin, le favori des sondages, Jordan Bardella, est en meeting ce soir à l'Écluse, près d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Éric Zemmour, pour le Reconquête, est élu à Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, cet après-midi. Ces spectacles ont marqué des générations de spectateurs. Alexis Grus est mort aujourd'hui d'un accident cardiaque. Il avait 79 ans. Alexis Grus a remis au goût du jour dans le cirque familial du même nom, les numéros d'acrobates et la voltige à cheval, Sandrine Thorendegger.
Alexis Grus, héritier d'une des plus grandes dynasties du cirque en France, avait trois passions, sa famille, les chevaux et la piste. Né dans la caravane de ses grands-parents pendant l'occupation, son père, André Grus, Dédé, célèbre clown à la chemise blanche et au chapeau melon, lui a transmis l'art du spectacle équestre, la musique et la voltige à cheval. Directeur de cirque dès l'âge de 27 ans, il installe sa troupe à Paris il y a 50 ans. Le spectacle ne devait durer que quelques semaines, mais très vite le succès est au rendez-vous. En 1974, il crée avec la comédienne Sylvia Montfort le cirque à l'ancienne, centré sur les arts équestres, en rupture avec le cirque traditionnel. Enseigner, transmettre était essentiel pour lui, comme il le confiait au micro de Bernard Thomasson en 2013.
Dans le mot savoir-faire, savoir c'est le cerveau et faire c'est la main. Dans notre famille, on a su conjuguer les deux. Et lorsque vous êtes debout sur les cinq étalons très russes et postiers bretons, et que vous voyez toute votre famille en équilibre sur ces chevaux-là, je trouve que voilà, c'est des moments d'émotion formidables qu'on doit partager avec les autres.
Et jusqu'à récemment encore, ce saltimbanque, trapéziste, voltigeur, clown ou saxophoniste se produisait sous le chapiteau familial niché dans le bois de Boulogne, aux côtés de la sixième génération.
Sandrine et Toa Andeg. La Ligue 1, 28e journée, Lens a manqué l'occasion de réduire l'écart avec le quatuor de tête. Les 100 et or ont fait match nul sur leur pelouse face au Havre, un partout. À 21h, le choc des extrêmes entre le PSG, large leader, et la lanterne rouge Clermont, à suivre sur France Info. Et puis un festival à Chaban-Delmas, l'UBB s'est largement imposé face aux Anglais des Saracens. Victoire 45-12 en 8e de finale de la Champions Cup. Le tenant du titre, La Rochelle, poursuit son chemin après sa victoire in extremis au Cap face aux Stormers 22-21. En revanche, Lyon s'arrête là, mangé par les Bulls de Pretoria. 20h33, la suite des informés avec Victor Maté.
Les informés, Victor Maté.
Et avec toujours dans le studio de France Info, Vibeke Knoop, Racheline, correspondante de la presse norvégienne, Anna Navarro-Pedro, correspondante de la presse portugaise, Enrique Bonnet, journaliste espagnol pour El Periodico, Daniele Zappala, vous avez vu, j'ai mis l'accent, journaliste italien, correspondant du quotidien italien, il n'y a pas de raison, à venir. La seconde partie des informés, on va continuer à parler de cet adolescent de 15 ans qui est mort hier après avoir été tabassé près de son collège de Viry-Châtillon. On ne vous a pas encore entendu sur le sujet, Vibeke Knoop, Racheline. Oui. Comment on parle de tout ça? Est-ce qu'on en parle déjà en Norvège où, la violence à l'école est assez élevée, je crois?
Oui, d'autant plus que on a eu, c'est pas exactement la même chose, mais on a eu un électrochoc comme ça, pareil, en 2001, un jeune de 15 ans. Qui était pas blanc de peau, qui a été tué par des néo-nazis, qui l'ont poignardé dans le dos, et ça a été mais un choc immense. Toute la Norvège l'a ressenti, et on aurait pu penser qu'après ça, peut-être que ça allait vraiment changer les esprits, peut-être, mais si on regarde les statistiques. En une année, il y a 20 000 cas de soit menaces, soit pire,
violence, harcèlement,
violence dans les écoles.
Ça veut dire que rien n'a changé finalement en 20 ans.
Voilà,
ça s'est même empiré.
Ça s'est pas empiré parce qu'il n'y a pas eu d'autres morts, mais quand même, ça veut dire que le problème existe encore. Et je pense que, enfin. Je sais pas, parce que je suis pas spécialiste. Et je trouve d'ailleurs que, par exemple, en France, là, en ce moment, on entend trop les politiques. Mmh. On n'entend pas les psychiatres, les gens éducatifs qui pourraient peut-être mieux expliquer la situation des jeunes. Mais en Norvège, en tout cas, on a essayé de faire pour le mieux et d'essayer de comprendre, et peut-être trop comprendre tout le temps et pas mettre assez d'autorité derrière les mots, quoi.
Parmi les politiques qui ont d'ailleurs réagi aujourd'hui, encore Jordan Bardella qui était en meeting dans le Nord, le chef de file du Rassemblement National, le président du Rassemblement National et candidat pour les européennes. Autre meeting de l'extrême droite, celui d'Éric Zemmour, candidat Reconquête, lui près de Montpellier dans l'Hérault, deux candidats aux dynamiques bien distinctes dans les sondages. Bardella étant en tête, vous le savez, des intentions de vote en France avec près de 30%, mais au total un bloc extrême droite très fort si l'on additionne les résultats. La France qui n'est pas le seul pays concerné, on va bien sûr en parler. La composition du Parlement, Anna Navarro-Pedro, et donc la politique européenne va sans doute être modifiée après le 9 juin.
On le pense et on suit ça très attentivement chez nous, en tout cas, parce que nous, on va contribuer pour la première fois avec des députés de cette droite populiste, radicale, extrême droite.
On rappelle la percée, bien sûr, de l'extrême droite chez vous.
La percée aux législatives début mars au Portugal, qui a eu tout de suite un parti créé en 19, qui a tout de suite 18% des votes, 50 députés dans un hémicycle de 230 sièges. Donc, il aura peut-être moins de votes chez nous pour les européennes, parce que son électorat semble s'intéresser moins justement à l'Europe que le reste de l'électorat portugais. Mais on suit ça très attentivement parce qu'il risque d'avoir une bascule dans ce Parlement européen d'une droite conservatrice modérée, traditionnelle, qui n'est plus imperméable aux thèmes, aux idées et au positionnement de l'extrême droite. Et une extrême droite qui se rapproche de cette droite qui, avec, je pense que Daniel nous en dira plus sur Meloni et en Italie, mais on suit très attentivement, surtout, la première ministre italienne. C'est pas de deux avec, Ursula von der Leyen qui souhaite être réélue et qui, cherche à son appui. Et puis c'est ces conversations en France et avec Marine Le Pen et peut-être Marion Maréchal. Tout ça risque de nous donner un Parlement européen différent et donc des politiquement européennes différentes. Et donc notre vie quotidienne va être changée parce que n'oubliez pas, pratiquement tout vient de Bruxelles aujourd'hui. La facture électrique, la facture dématérialisée, etc., etc.
Vous évoquez Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, dont le parti est en bonne position pour ces européennes, Daniele Zappalà.
Oui, c'est le parti en fait qui est aujourd'hui la référence de ces groupes de conservateurs qui est entre les partis populaires européens. Premier, en fait, parti de la droite traditionnelle et, en fait, la droite encore plus dure, on va dire, idée. Et c'est vrai que on sent une certaine effervescence au niveau, effectivement, des possibles tractations. L'autre groupe de référence, effectivement, des groupes idées, c'est lui mené au niveau européen par les Rassemblements nationaux. Et donc, il y a cette ligne, en fait, ces croisements où, officiellement, Meloni est alliée avec Reconquête, mais on sent que les deux grandes forces, en fait, RN et Fratelli d'Italia, pourraient effectivement trouver un compromis. En tout cas, semaine après semaine, on voit bien qu'il y a des jeux, des petits mots, des signes, même si, bien sûr, il y a ensuite des fossés encore profonds, des questions dynastiques. On peut même les dire ainsi dans les cas, en fait, de Mario Maréchal. Donc, on voit bien que, en tout cas, l'Italie devient, en fait, un nouveau laboratoire du populisme, ce qui, bien sûr, inquiète énormément et qui quand même met les pays en fait dans une position peut-être voilà de pouvoir jouer en fait de son influence. On ne sait pas encore dans quelle direction.
En Espagne, Enric Bonet, il y a le parti Vox qui représente l'extrême droite. Que pèse l'extrême droite en vue de ces européennes?
Là, elle est plutôt affaiblie ces derniers mois. L'extrême droite s'est affaiblie, notamment parce que la droite classique, les partis populaires, il a récupéré, il incarne un peu l'opposition à Sanchez et tous ceux qui sont en colère face au gouvernement Sanchez, notamment par rapport à l'amnistie qu'il a prouvée pour les politiques indépendantistes catalans. Ils vont, il semble qu'ils vont voter plutôt pour la droite classique. Donc l'extrême droite qui se rassemble beaucoup à Zemmour. En fait, le Vox se rassemble beaucoup à Zemmour, donc c'est un parti qui fait beaucoup de bruit, mais peut-être fait autant de bruit que finalement il est affaibli électoralement. Selon le sondage, il va être à 7, 8... dans le meilleur des cas, à 10%.
Un peu plus donc, que Reconquête en France, qui est aux alentours de 5.
6-7 députés européens. Donc, l'Espagne ne va pas porter beaucoup de députés européens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Espagne, très, très rapidement, il y a eu des relations entre Vox et les partis populaires. Ils sont en coalition dans 4 régions, ce qui est levé, donc ce qui est beaucoup. Finalement, Vox, il a plus de points institutionnels dans des gouvernements régionaux que l'extrême droite en France. Et c'est intéressant le cas de l'Espagne, qu'on voit ce qu'on évoquait avant, cette relation qui se rapproche entre la droite classique et l'extrême droite. Et ce qui se passe en Espagne, probablement, ça pourrait se passer au futur Parlement européen.
On verra ce qui se passe du côté de la Norvège, seul pays ce soir non présent dans l'Union européenne, mais c'est une vision tout à fait intéressante. Tout de même, on va en parler dans un instant, 20h40, le Fil Info, Stéphane Milhomme.
Une série de mesures pour accélérer l'accès aux soins en ville. Gabriel Attal en détaille certaines dans une interview à paraître demain dans la presse régionale. Le Premier ministre s'est fixé comme objectif de reconquérir 15 à 20 millions de rendez-vous chez le médecin généraliste dès cette année, dès cet été. Une mesure est appelée à faire grincer des dents. Si un patient ne vient pas à son rendez-vous médical, il pourrait payer quand même 5 euros en tant que pénalité. Pour améliorer cette fois la prise en charge des patients en fin de vie, mais aussi mieux accueillir leurs familles, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, débloque une enveloppe supplémentaire de plus d'un milliard d'euros sur 10 ans. Le Conseil des ministres examinera mercredi le projet de loi sur la fin de vie souhaité par Emmanuel Macron. Près de 100 000 manifestants dans les rues de Budapest. Ils manifestaient en soutien à un ancien proche de l'équipe au pouvoir, devenu critique du Premier ministre de Hongrie, nationaliste Viktor Orban. Une contestation dans le sillage du scandale suscité en février dernier par une grâce présidentielle dans une une affaire de pédocriminalité. Greta Thunberg a interpellé lors de manifestations à La Haye et même à deux reprises. La jeune militante écologiste suédoise participait à une action des activistes d'Extinction Rebellion contre les subventions aux énergies fossiles. Et puis la Belge Lotte Kopecky remporte la 4e édition du Paris-Roubaix féminin. La suite de l'Enfer du Nord, c'est demain chez les hommes avec 121e édition et un départ depuis Compiègne et 260 km à dévorer, dont une cinquantaine sur les fameux pavés du Nord.
France Info.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Et on poursuit notre discussion autour de la montée de l'extrême droite ou des extrêmes droites. L'extrême droite également puissante en Norvège. Vibeke Knupprachlin, la Norvège qui ne fait pas partie, on le disait, de l'Union européenne. Pas d'élection pour vous le 9 juin. Mais on assiste depuis longtemps déjà à la montée de ces extrêmes. Ils ont même fait partie du gouvernement ces dernières
années. Tout à fait. Et ça les a un peu apaisés. Hein. Ils sont moins extrêmes depuis. Mais
de quelle façon ça se manifeste?
Bah ça se manifeste dans leur position un peu sur tout ce qui est dans la politique. Ils sont bien à droite, ça c'est sûr, mais d'ailleurs on nous a appris entre guillemets de ne plus dire extrême droite en ce qui les concerne. Il y a même eu lorsqu'ils ont été
il y avait eu cette demande en France de la part de Marine Le Pen il y a quelques années. D'ailleurs ça les irrite souvent le Rassemblement National. C'est une demande qui a été faite aussi par les politiques
ça les énervait que par exemple Jean-Marie Le Pen les félicitait pour leur bon score électoraux parce qu'ils se disaient non nous on n'a rien à faire avec eux. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même devenus plus modérés. Mais ça, c'était pas la question. La question, c'était les élections européennes. Effectivement, on n'y prend pas part, on ne vote pas, mais ça nous concerne quand même complètement parce qu'on est dans l'espace économique européen et toutes les mesures de Bruxelles nous concernent autant que vous. Hein.
Vous la regardez de très près, du coup, en Norvège.
Mais oui, bien sûr.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Marie?
En ce qui concerne, vous avez commencé, vous avez lancé le sujet en parlant des meetings de Bardella et de Zemmour. Et jusqu'à présent, dans cette campagne qui part en France, cette fois-ci, il y a une vraie campagne en France. Les élections précédentes, on avait l'impression que ça se passait en catimini, un petit peu là, sur le coin de la table. Il nous manque quand même de voir Bardella en débat.
Oui, qui refuse pour l'instant les débats, effectivement.
Et Éric Zemmour, est-ce qu'il est capable de parler d'une France, d'une Europe, restons en France pour lui, uniquement. Allez, soyons gentils. Mais est-il capable de parler uniquement d'une France, d'autre chose que de l'immigration? Est-ce qu'il y a un autre pays au-delà de l'immigration pour Éric Zemmour? On est curieux de savoir cela. Et là, vous voyez, en plus, ce qui est curieux, c'est qu'on parle de la campagne de reconquête pour les Européennes, et on parle de Zemmour, mais on ne parle pas de Marion Maréchal. Mais pourquoi? C'est la tête de liste. Il y a beaucoup de questions dans cette campagne.
On parle des deux, puisqu'on a même parlé un peu de leur dispute et de leur mauvaise entente supposée.
Non, mais ils disent que non, ils disent que
la campagne de Bardella, c'est surtout une campagne sur TikTok. Il a 1 million de suiveurs ou je sais pas quoi sur TikTok et il trouve que c'est beaucoup plus intéressant de se faire photographier filmer en train de boire une bière que d'avoir des avis sur des problèmes graves comme la dette française. Hein.
Très populaire auprès des jeunes, notamment Jordan Bardella, on le voit lors de ses déplacements et encore aujourd'hui dans le Nord pour ce meeting. Passons à notre dernier sujet ce soir dans Les Informés. Il nous ramène à l'une des pages les plus sombres de l'histoire du XXe siècle. En 1994, entre 800 000 et 1 million de Tutsis étaient assassinés sauvagement par les Hutus. Le génocide, bien sûr, au Rwanda, commémoré ce week-end, les 30 ans de ce génocide. Emmanuel Macron a reconnu cette semaine que la France aurait pu arrêter le génocide, mais n'en a pas eu la volonté. Le président français qui ne s'est pas rendu aujourd'hui à Kigali, représenté par son ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Le Rwanda qui affiche son unité aujourd'hui et communique largement dessus avec une attention particulière sur la jeunesse. Écoutez, le ministre rwandais de l'unité nationale et de l'engagement civique, Jean Damascène Bizimana.
Il y a eu le passé du génocide, il y a le présent où le Rwanda s'est reconstruit avec la résilience qu'on a. Mais toujours dans le regard vers le futur, on regarde les générations futures. Les générations futures qu'il faut prévenir des fléaux, pour lesquels il faut se servir du passé pour apprendre des leçons, s'en servir pour ne pas recommencer les mêmes crimes. Donc il faut éduquer. Il faut éduquer les jeunes, il faut éduquer les enfants.
On l'entend, hein, Daniel Zapala, il y a cette volonté très forte aujourd'hui au Rwanda d'afficher cette réconciliation, ce Rwanda nouveau, un peu 30 ans après.
Oui, tout à fait. Et c'est un peu ce que le président Kagame met en avant. Effectivement, ce succès économique, le nombre de femmes, en fait, dans les places institutionnelles. Et en même temps, on peut regretter qu'on n'élargisse pas un peu la focale à la région des Grands Lacs, car effectivement, malheureusement, les génocides a aussi été le début d'une période de déstabilisation très puissante de cette région. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être sans doute la faiblesse de ces commémorations. On reste un peu trop, en fait, figé sur, effectivement, ce que les anciennes victimes ont à dire, sans peut-être élargir un peu plus au massacre qui encore aujourd'hui, malheureusement, se déroule de l'autre côté de la frontière, notamment congolaise.
Anna Navarro-Pedro, on regarde quelque part trop le passé, pas assez le présent ?
Mais on regardera toujours le passé tant que le devoir de mémoire n'est pas fait correctement. Et tant mieux, parce que, vous savez, ça ressort si on oublie de parler de ce qui s'est passé ça ressort dans les générations à venir, sans le savoir pourquoi, d'ailleurs. Et en France, c'est très curieux. Il y a toujours des opinions divergentes sur le rôle de la France dans l'affaire du génocide des Tutsis en Rwanda. Et là, je plaide pour une ouverture plus grande des archives en France, la France est toujours très secrète là-dessus et tout est cadenassé dans ce pays. Les États-Unis sont beaucoup plus ouverts. Peut-être qu'il y aura des exemples à prendre. Mais il y a toujours ces deux exemples des historiens et des observateurs qui continuent à avoir des positions un peu divergentes basées sur des faits qui sont connus et qui peuvent être interprétés de façon différente. Et effectivement, il y a un réchauffement des relations maintenant entre Kigali et Paris, notamment du fait d'Emmanuel Macron. C'était exécrable sous François Hollande. Mais effectivement, on oublie pour cela, on est obligé d'oublier l'intervention du Rwanda au Congo. Et au Congo, c'est ce massacre, ce génocide quasiment horrible. J'utilise le mot sans autorisation, on en parle très peu, mais on parle de 6 millions de morts, 7 millions de déplacés, le viol comme arme de guerre et tout ça pour des terres rares qui sont dans nos portables.
On va continuer à en parler dans une minute, bien sûr. Le fil info d'abord. À 20h50, on retrouve Stéphane Milam.
Et au lendemain de la mort Châtillon, après la violente agression, la garde à vue des 5 suspects est prolongée de 24 heures. Une annonce ce soir du parquet d'Evry. Ces jeunes sont âgés de 15 à 20 ans. Une enquête est ouverte pour assassinat. Jordan Bardella lui fustige ce qu'il appelle une barbarie nouvelle, fruit d'un cocktail explosif entre une immigration non maîtrisée, des tensions communautaristes et un laxisme judiciaire. Le président du Rassemblement national est en déplacement dans le Nord à 2 mois maintenant des élections européennes. Gabriel Attal vient au chevet du système de santé français dans une interview à paraître demain dans la presse régionale. Le Premier ministre souhaite une réforme de l'accès aux spécialistes sans forcément passer par le médecin traitant, permettre aussi aux pharmaciens de prescrire certains antibiotiques pour certaines pathologies. Le PSG reçoit Clermont, la lanterne rouge du classement de Ligue 1. Coup d'envoi dans une dizaine de minutes depuis le Parc des Princes. L'entraîneur des footballeurs parisiens, Luis Enrique, laisse sur le banc Mbappé, Dembélé et Marquinhos. Nous sommes à 5 jours du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Barcelone. Et puis, c'est l'heure du dépouillement en Slovaquie après le second tour de la présidentielle. Le grand favori, c'est Ivan Korkok, ancien ministre des Affaires étrangères et pro-européen. Un scrutin sur fond de guerre en Ukraine voisine.
France Info. 20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Les 30 ans du génocide au Rwanda, on va reparler de la France dans un instant. D'abord, Henrik Bonnet, on a presque l'impression que les autorités rwandaises aujourd'hui veulent faire oublier ou en tout cas faire croire qu'il n'y a pas de traces aujourd'hui ou de séquelles. Voilà, que vraiment tout va bien et que c'est oublié.
Oui, comme un sort de moment un peu fondatrice de cette nouvelle nation rwandaise. Après, comme on l'a dit, malheureusement, les sociétés africaines, elles continuent à être très marquées par la violence. Le Rwanda, donc, très impliqué par rapport à ce qui se passe au Congo. Donc, finalement, cette violence qui est très plaisante, non, là-bas. Après, c'est vrai que je trouve intéressant les déclarations d'Emmanuel Macron. dans le sens donc qu'il reconnaît un peu l'erreur qui a été commise par la France il y a 30 ans. À l'époque, probablement, c'était une situation beaucoup plus complexe de gérer pour la France. Mais je pense qu'on ne peut pas parler de l'anniversaire des 30 ans des génocides de Rwanda sans oublier les présents, notamment ce qui se passe au Proche-Orient à Gaza. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à utiliser le mot génocide par rapport à ce qui se passe à Gaza, mais je pense que probablement ça se rassemble beaucoup plus à nettoyage ethnique. Et ce qui est intéressant entre les décades des deux pays, c'est que finalement, à l'époque, il y a 30 ans, le gouvernement Tutsu, c'était un gouvernement allié de François Mitterrand. De la même manière qu'aujourd'hui, le gouvernement Netanyahou, c'est un gouvernement qui est allié de la France et de l'Espagne et de toute l'Union européenne. Et finalement, cette sorte de relations, des alliances, c'est ce qu'on appelle le réalisme politique, c'est qu'il fait qu'on permet des massacres et des atrocités, non, que finalement, malheureusement, les valeurs, elles sont très peu présentes au niveau dans les relations internationales et dans la manière de gérer ces situations, qu'on n'a pas trouvé la bonne manière.
Vibeke Knoum-Rachlin, la France doit s'excuser, selon vous?
Bah oui, enfin s'excuser. J'ai entendu quand même, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages de victimes sur les ondes. J'ai entendu une victime très poignante aujourd'hui qui disait que ça sert à rien. Des excuses, c'est pas le mot qu'il faut. C'est mieux de constater vraiment dans des atroces détails tout ce qui s'est passé et toutes les implications. Et d'ailleurs, on parle pas assez du fait qu'il n'y avait pas que la France. Mm-hmm. Il y avait aussi les troupes des Nations Unies, mm-hmm, et des États-Unis. Et les États-Unis voulaient surtout pas s'impliquer là-dedans. Donc, les troupes des Nations Unies ont été retirées. Et ça aurait pu peut-être empêcher, s'ils étaient restés, ça aurait peut-être pu empêcher le massacre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Norvège, il y a un peu le passé et le présent. Le passé, parce que il y a plusieurs coupables, en tout cas accusés, qui se sont réfugiés en Norvège. Donc, nous avons eu des procès en Norvège. Et d'autre part, on parle du Rwanda au présent, parce que comme le Danemark et comme la Grande-Bretagne, il est question peut-être d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda.
Il y a encore un autre débat. Pour revenir à la France, Daniela Zappala, comment est-ce qu'on explique à l'époque justement qu'elle n'ait pas agi, alors que tout le monde s'accorde aujourd'hui, après des années, à dire que les autorités savaient sans doute ce qui allait se passer, encore plus une fois qu'elles étaient sur place pour évacuer leurs ressortissants?
Je pense que c'était vraiment à l'époque où la grille des lectures était encore post-colonial, et la France avait en fait vraiment comme priorité celle de défendre un peu son précaré, sa zone d'influence, comme parfois on l'a dit, et finalement tout cela a véritablement empêché de comprendre ces bouillonnements à l'intérieur du pays, et encore aujourd'hui, on les sent en fait 30 ans après, on n'est pas capable véritablement de regarder à une telle crise en fait depuis l'intérieur. Pourquoi en fait nous ne donnons pas véritablement la parole aux acteurs aujourd'hui de la réconciliation? On a toujours en fait cette vue assez surplombante, verticale. Donc c'est vrai que une figure comme Kagame bien évidemment est mise en avant,
mais c'est très controversée.
Aussi qu'elle est extrêmement controversée, considérée par la plupart des ONG comme tout simplement en fait un dictateur ou apparenté. Et c'est vrai que on a en fait malheureusement ces points en commun avec 30 ans après. Encore, on ne voit pas un point de vue véritablement africain capable en fait de nous parler d'une Afrique de l'avenir. Donc nous sommes tout le temps un peu condamnés à regarder en fait les affaires au passé, alors que dans les présents, malheureusement, il y a, on l'a dit plusieurs fois, plein de drames en cours.
Vous êtes d'accord avec ça?
Pour rebondir sur ce que dit Daniel, il y a certains historiens, peut-être pas français, mais qui plutôt anglo-saxons, mais qui disent que ce génocide a été le point de départ d'une nouvelle approche de l'Afrique, en considérant que c'était aux Africains aussi de régler des problèmes africains. Et notamment avec l'intervention de troupes africaines dans des cas de conflits, etc. Et donc de sortir de cette grille de lecture post-coloniale dont parlait Daniel. Donc c'est le seul point, je ne dirais pas positif, mais un point important dans l'histoire du continent, sorti de cette horrible massacre, cet horrible génocide.
Henrique Bonnet, ce qui se passe aujourd'hui, vous voulez réagir également?
Non, je voulais juste dire qu'on peut peut-être aussi donner un peu de crédit aux Rwandais eux-mêmes qui ont fait des une sorte de tribunal de réconciliation un peu partout dans le pays, qu'ils ont organisé eux-mêmes, bon, un peu parfois aidés. Je sais qu'il y a eu des magistrats norvégiens qui sont partis là-bas, et ça, c'était quand même quelque chose de très important. Essayer, parce que après un drame comme ça, c'est épouvantable.
Et on a entendu aussi beaucoup de témoignages de victimes ou d'habitants aujourd'hui du Rwanda qui disent, voilà, on ne se dit plus aujourd'hui Hutu ou Tutsi, Henrique Bonnet.
D'accord, oui, donc c'est qu'il démontre, c'est une nation qui a changé à partir de ces moments traumatisants. Et c'est vrai que finalement le Rwanda, comme toute l'Est de l'Afrique, sont des régions qui ont un énorme avenir, et probablement sa force sera de regarder beaucoup moins ce passé traumatisant et de regarder vers l'avenir. Et c'est vrai que le continent africain, il a une puissance énorme au niveau démographique, des ressources, etc. Et je pense que finalement, à partir du moment que la France qui reconnaît une sorte de culpabilité, je pense que c'est positif, peut-être sans en faire trop. Et surtout, la force, c'est d'apprendre qu'il ne faut pas donner des leçons à l'Afrique. C'est un peu donc les ministres des Affaires étrangères qui commencent une nouvelle tournée pour réconcilier avec l'Afrique. Je pense que c'est très important de ne pas donner des leçons aux pays africains et de les laisser faire son chemin et se consolider comme des États-nations.
Sujet passionnant dont on pourrait parler des heures. On va devoir s'arrêter là, malheureusement. On en reparlera d'ailleurs demain soir dans Les Informés. Merci à tous les quatre infiniment d'être venus ce soir sur le plateau des Informés. Très bonne soirée à tous ces Informés qui reviennent demain.